les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, qui vous regardera. Volato, la torre, la do.
Bonne nuit, ici Elisabeth Gagnon. Toute cette heure de l'ascenseur pour les étoiles est consacrée à Jacques Brel à l'occasion de la sortie du livre de Fred Hidalgo, L'aventure commence à l'aurore, publié chez l'Archipel. Fred Hidalgo est journaliste, fondateur des revues Paroles et Musique et de Chorus. Il est aussi éditeur et aujourd'hui auteur du blog Si ça vous chante. Je l'ai rejoint dans le sud de la France pour qu'il nous parle de cette aventure dans les traces de Brel aux Marquises.
L'important, c'est de faire les choses, c'est d'aller voir, c'est de le faire, c'est de pas dire tiens, eh bien l'année prochaine, si j'ai un peu de temps, je vais faire, et moi j'aimerais bien faire, et oh, il y a 3 ans que je pense à un bouquin, et je vais peut-être... Non, l'important, c'est de faire les choses, c'est d'aller voir. L'important, c'est de se mettre au pied du mur. Et alors si on a mal calculé son élan, si on se heurte au mur et qu'on se casse la tête... Il faut pas insulter les gens, c'est qu'on s'est cassé la gueule, on se trompe soi. Il n'y a que finalement les gens totalement immobiles et qui ne font jamais rien qui arrivent à traverser la vie en disant que tous les autres sont cons, ou à peu près. Dès qu'on fait les choses, on devient d'une humilité fantastique. Dès qu'on va voir, on a vraiment peur. Sur les terrains d'aviation, j'ai piloté longtemps ce qu'on appelle en VFR, c'est-à-dire le vol à vue. Il y a 2 sortes de gus en bas. Il y a le gus qui arrive, il est à côté de son avion, il dit avec ce temps-là, il ne faut pas y aller. Et lui, il a toujours raison. Bien sûr, il a toujours raison. Et il y a les autres gus qui disent, il faut aller voir. Alors on décolle, on a un peu peur, on a même bien peur, on va voir, on revient, on fait demi-tour, on passe ou on ne passe pas. Ça n'a pas d'importance. On est allé voir. Et si c'est un échec, on l'a mérité. C'est ou parce qu'on a eu peur en route, ou parce qu'on n'est pas assez bon pilote, ou... Mais c'est soi. Et les autres, effectivement, ne se trompent jamais. Mais ils finissent par ne plus avoir d'avion, par se faire absorber par une femme et par 2 maîtresses dans leur ville, avoir 2 enfants, 1 enfant en plus, à croire à l'immortalité de l'âme. Et je ne veux pas faire ça. Je préfère continuer à être en marche.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. Tout ce que l'on cherche à redécouvrir fleurit chaque jour au coin de nos vies. La grande aventure, il faut l'accueillir entre notre église et notre mairie, entre la barrière du grand-père Machin et le bois joli de monsieur le baron, et entre la vigne de notre voisin et le doux sourire de la Madelon.
La Madelon, l'aventure commence alors.
Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains.
Tous ceux que l'on cherche à pouvoir aimer sont auprès de nous. À chaque instant, dans le creux des rues, dans l'ombre des prés, au bout du chemin, au milieu des champs, debout dans le vent et semant le blé, plié vers le sol, saluant la terre, assis près des vieux et tressant l'osier, couché au soleil, buvant la lumière.
Dans la lumière, l'aventure commence à l'aurore, à l'aurore de chaque matin, l'aventure commence alors, que la lumière
Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat.
L'aventure commence à l'aurore. L'aurore nous guide au chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin.
L'aventure commence à l'aurore, c'est à peu près la 30e biographie parue sur le Grand Jacques. Et Fred Hidalgo, je vous ai trouvé bien téméraire d'entreprendre ce travail, mais connaissant votre amour de la chanson et le bon journaliste en vous, vous avez su trouver l'angle qui était négligé, celui de l'aventurier vu du large. Et ça a commencé pour vous, cette aventure, je pense, plus par un pèlerinage en quelque sorte.
Oui, c'est vrai, puisque nous nous sommes rendus, mon épouse et moi, tous les deux, jusqu'aux Marquises. Et Nuku'iwa, l'île principale, mais surtout Iwaoa, l'île où Brel a jeté l'ancre après avoir traversé l'Atlantique d'abord et le Pacifique ensuite, tout seul avec Madly. Donc déjà, il y avait un petit pincement au cœur avant d'arriver là-bas. Et quand on est arrivé là-bas, ça a été plus qu'un pincement au cœur, c'était une émotion très importante dans la mesure où on a rencontré des gens qui fréquentaient Jacques Brel au quotidien et qui n'avaient jamais témoigné de cette vie-là, de leur rencontre avec lui. Et le dialogue s'est instauré très vite entre nous, peut-être parce qu'ils se sont rendus compte que l'on connaissait bien Jacques Brel, toute son histoire en tout cas. Et finalement, on a eu droit à leur confidence. Et de fil en aiguille, on a découvert un personnage que l'on soupçonnait un peu, bien entendu. Il y a déjà eu des informations qui sont parues dans le dernier chapitre de biographie. Mm-hmm. Mais ça ne faisait qu'effleurer le sujet. Mm-hmm. On a vraiment découvert une vie extraordinaire.
En fait, votre visite un peu en amoureux à deux s'est transformée en une enquête de terrain qui est en fait la réalisation d'un rêve pour vous, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Alors, la découverte en amoureux, vous faites bien de le dire, puisque, bon, après tout, c'est inutile de le cacher, c'était notre 40e anniversaire de mariage. Alors la chanson des vieux amants, là-bas, ça, pour nous, ça parlait beaucoup.
Ben oui, j'imagine.
Et puis, à partir de là, comme je vous le disais, on a vraiment découvert plein de choses. Bon, des témoignages, bien entendu, de la part de gens qui l'ont connu entre fin 1975 et puis la fin de l'été 1978, quand il a dû rentrer pour la dernière fois. Mm-hmm. Sur Paris, qu'il a quitté les Marquises.
Avant de parler de ça, dites-moi, Fred Hidalgo, que représentait Brel au départ pour vous, 35 ans après sa mort?
Alors, il faut dire que j'ai quasiment voué l'essentiel de ma carrière professionnelle à la chanson, à travers les journaux qu'on a créés, ma femme et moi, les livres que l'on a édités. Cela simplement pour dire qu'on ne vit pas toute une vie comme ça sans aimer la chanson en général, et donc les chanteurs. Mais Jacques Brel, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été mon artiste de prédilection. Peut-être parce que lui-même disait qu'il était flamand avec des racines espagnoles. Ah. Flamand francophone, évidemment, mais il revendiquait des racines espagnoles.
Ce que vous avez aussi.
Et voilà, moi, mes parents maternels et paternels sont espagnols, enfin, ou étaient espagnols. C'était des réfugiés républicains qui ont fui le franquisme en 1939. Et donc, moi, je suis né en France, évidemment. Ils ne se connaissaient pas, mes parents, ils se sont rencontrés en France. En se remettant dans le contexte de l'époque, quand j'avais 7-8 ans, pour moi, le souvenir marquant que j'avais, c'était Quand on a que l'amour. Quand on a que l'amour, c'est sorti en 45 tours en 1956, et puis ensuite en album, en 25 cm, 33 tours, en 1957. Donc probablement, j'ai dû le découvrir en 57, j'avais 8 ans. Mmh. Et puis très vite, et dans toutes les interviews qui ont suivi, les entrevues ensuite, il avait toujours des références pour l'Espagne, ou dans ses chansons, hein, quand il parle de Jeff, on sera espagnol, comme lorsqu'on était gamin, on était môme, mmh. Don Quichotte, bien entendu. Et il y avait une résonance pour le petit-fils d'Espagnol, réfugié républicain, perdu dans le nord de la France. Et puis surtout, dans son mode d'expression, c'est-à-dire que Brel, les gens qui ne l'aiment pas, ne l'aiment pas parce qu'ils le trouvaient outrancier, un peu des... lorsqu'on le critique, on dit « Ah oui, mais il est allé ses tripes, comme ça ». Moi, c'est ce qui m'a plu, justement. J'ai découvert quelqu'un, comme il le disait lui-même, d'enthousiaste et de naïf à la fois, mm-hmm. c'est-à-dire qu'il ne calculait pas.
Complètement franc.
Ah, complètement franc, oui, ça, franc du collier, on ne peut pas plus que Jacques Brel. C'est quelqu'un, bon, on dit des béliers, il était né le 8 avril, c'était un bélier comme moi, je suis né un 1er avril. On dit des béliers qu'ils foncent d'abord et qu'ils réfléchissent ensuite.
Oui, j'ai un fils qui est né le 8 avril, je n'ai pas fait exprès.
Ah, eh bien, et donc, alors, bah, vous devez savoir de quoi je parle
fait, ouais.
En ce moment. Et donc, il y a ce côté, effectivement, complètement franc du collier qui parfois se retourne contre vous, mais peu importe, hein, on n'a qu'une vie.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Et il y a toutes ces valeurs qui véhiculent, qui doivent vous rejoindre aussi.
Oui, évidemment. Dans ses chansons, alors c'est l'humanisme, c'est l'altruisme. Il a eu une éducation, évidemment, très chrétienne, dont il s'est défait ensuite, puisqu'il n'arrêtait pas de critiquer en gueulant même, hein, dans les rues d'Atouana, il gueulait « Dieu est mort !» quand il voyait le curé, le prêtre qui passait, ou les bonnes sœurs. Mais en fait, toute sa vie, il a appliqué le principe de la charité chrétienne, finalement, c'est-à-dire la fraternité, la solidarité.
Et vous dites à ce propos-là que ce sont les trois dernières années de sa vie que vous mettez en scène dans ce livre, trois ou quatre dernières années de sa vie. Je dis vous mettez en scène parce que donc vous étiez sur place, sur les lieux, les trois ans qui éclairent sa vie et qui accréditent toute son œuvre.
En fait, donc, on peut parler de quatre ans, un peu plus de quatre ans, puisqu'il est parti du port d'Anvers sur son voilier le 24 juillet 1974, et donc il est mort le 9 octobre 1978. Donc ce sont ces quatre années que je raconte dans le détail, mais en particulier, c'est vrai, les trois années qu'il a vécues aux Marquises. Il a jeté l'ancre le 19 novembre 1975 aux Marquises, donc il a vécu les années 76, 77, 78, jusqu'à son retour. Il a dû quitter en catastrophe Ivaoa à la fin juillet 1978. Et c'est cette histoire que je raconte parce que après l'avoir vécu entre guillemets sur place, on s'est dit qu'il y avait finalement urgence à la raconter. Vous disiez en début que c'est vrai qu'on en était peut-être à la 30e biographie de Brel. Il y a eu beaucoup plus de livres que ça publiés depuis 1964, c'était le premier, mais depuis sa mort, il y en a eu énormément, dont trois ou quatre biographies, hein, de référence, pas plus.
Hein. Oui, c'est vrai.
Il y en a trois ou quatre qui sont vraiment excellentes. Mais là, ça n'est pas une biographie, ou alors c'est vraiment une petite partie de sa vie, mais la vie que j'estime maintenant, a posteriori, moi qui adorais tellement son œuvre, qui adorais tellement l'interprète, j'estime que c'est la plus importante de sa vie, parce qu'il a mis en pratique là-bas tout ce qu'il a professé en théorie, c'est-à-dire en parole et en musique, pendant la première partie de sa vie.
Oui, c'est ça. Vous dites qu'il a réalisé, appliqué les idées d'humanité qu'il véhiculait dans ses chansons, finalement. Là, oui, il était loin de tout, sans entrave de quelqu'un qu'il connaissait. Alors, il était totalement lui-même.
Ah, totalement lui-même, puisque il n'était pas sous les regards des autres, il n'avait rien à attendre de personne. Et en plus, on ne le connaissait pas comme chanteur quand il est arrivé là-bas. C'est ce qui, entre autres, l'a incité à s'installer à Ivaoa. C'est qu'on ne le connaissait pas du tout, ni comme chanteur, ni comme acteur. Mm-hmm. C'était un marin comme les autres, quoi, qui venait traverser le Pacifique. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'était quelqu'un de totalement inconnu sur place. Pour se remettre dans le contexte de l'époque, donc 1975, il y avait environ 2000 habitants sur l'ensemble de l'île. L'île qui est quand même relativement importante. Encore aujourd'hui, il manque de pistes de route pour aller d'un bout à l'autre, mais souvent, il faut des dizaines d'heures pour passer d'un bout de l'île à l'autre, parce que quand il n'y a plus de pistes, il n'y a plus que des pistes cavalières. Hein. Il y a encore des gens, beaucoup de gens qui se promènent à cheval, comme du temps de Gauguin, les fameux chevaux blancs de Gauguin.
C'est quand même incroyable de penser ça aujourd'hui, hein.
Ah oui, 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 incroyable. Et entre autres, on a rencontré justement ce qu'on pourrait appeler le directeur des travaux publics à l'époque où Jacques Brel vivait là-bas, c'est-à-dire quelqu'un qui était chargé de tracer des pistes à Ivaoa, puisqu'il n'y avait rien. Hein. Tout était en terre à l'époque, c'était vraiment des sentiers.
Et dès qu'il pleuvait, ça devenait impraticable.
Ah, c'était terrible. Alors, il faut revoir la façon dont la ville d'Atona, ou le village plus exactement, donc est au bord de la mer. Et l'aérodrome est sur une crête en haut d'Ivaoa, donc environ à 17 km d'Atuona, qui est la principale ville, entre guillemets, de l'île d'Ivaoa. Et il faut descendre, il y a un col, il y a un col qui descend de 1200 mètres environ au niveau de la mer en quelques kilomètres. Et lorsqu'il pleuvait, c'était épouvantable, ça devenait vraiment très très dangereux. Et les pilotes qui faisaient escale une fois par semaine, puisqu'il y avait des vols quand même de Tahiti jusqu'à Ivaoa une fois par semaine, le lundi, lorsqu'ils arrivaient qu'il pleuvait, leur hantise, c'était de devoir descendre de l'aérodrome jusqu'au village, puisqu'ils étaient logés au village, c'était le lieu d'escale nocturne pour le vol hebdomadaire. Et c'était vraiment très, très, très difficile, hein, tous les témoignages qu'on a eus. Et alors, pour remonter, c'était encore pire, évidemment.
Mais ce monsieur des travaux publics, donc, qui a été un peu votre guide, je pense bien,
oui,
vous donne des détails ethnographiques qui sont absolument passionnants sur ces îles. On apprend énormément de choses.
Oui, parce qu'il est devenu guide culturel depuis... C'est quelqu'un qui est originaire d'Algérie et qui s'est retrouvé au début des années 1960 à Ivaoa. Il s'est marié avec une marquisienne, donc ils ont eu des enfants et il a passé toute sa vie là-bas. Il est tombé en amour avec Ivaoa et il s'est rendu compte qu'il y avait un patrimoine culturel avec des vestiges archéologiques absolument extraordinaires, mais vraiment... qui était totalement délaissé et complètement oublié des autorités de Tahiti, parce que Tahiti, donc, c'est le gouvernement central. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un POM, c'est-à-dire un pays d'outre-mer. C'est ni un département, ni un territoire d'outre-mer, mais un pays d'outre-mer avec un gouvernement autonome et un président de Polynésie française. Mais tout est à Tahiti, à Papeete.
Mais qui est à combien de milliers de kilomètres de Atuana?
Voilà, pas plusieurs milliers, mais 1500 kilomètres.
Ouais, c'est quand même...
1500 kilomètres, quand vous êtes isolé comme ça en plein Pacifique, il faut savoir que l'archipel des Marquises est l'archipel le plus isolé au monde qui soit d'un continent. Et donc les gens étaient complètement isolés, le patrimoine n'a pas été mis en valeur et Jean Saucourt, puis c'est son nom, est devenu guide culturel pour au moins faire partager ses connaissances aux rares voyageurs de passage, puisqu'il n'y a quasiment pas de touristes qui arrivent là-bas. Nous, quand on a débarqué à Ivaoa, c'était un Twin Otter comme celui que Brel avait pris d'ailleurs la première fois, avec 18 places à bord et on était 8, y compris le pilote et le copilote.
C'est pas la foule.
Non, c'est pas la foule. Et puis, bon, mis à part les petites améliorations, l'électricité est enfin arrivée, alors qu'il n'y en avait pas du temps de Brel, la télévision, etc. Mais à part ça, la ville s'est un petit peu plus peuplée, il y a un peu plus d'habitants, il y a un petit peu plus de commerces. Mais quand je dis les commerces, ce sont des épiceries, des bazars, quoi. tout est à peu près resté dans l'état, avec une île complètement sauvage et une végétation, un relief magnifique.
Et la maison de Brel, cependant, n'existe plus, la maison qu'il a habitée.
Non, alors là, quand on est arrivé sur place, on pensait encore retrouver quelque chose. On a eu des échos, mais on pensait malgré tout retrouver. Et puis la maison a été rasée, elle a été détruite. Et ça, c'est quelque chose de tragique, parce que quand on pense que le dernier album de Jacques Brel, qui n'est pas le dernier de ses albums au niveau de la qualité, avec des chansons tellement belles, tellement magnifiques, a été écrit dans cette maison-là et qu'il n'en reste rien, elle a été rasée, puis... À l'emplacement même, il y a une autre maison maintenant, mais en dur, beaucoup plus grande. Bon, c'est simplement l'emplacement qu'on se rend compte de la vue que Jacques Brel et sa compagne Madly avaient. Et c'était une petite maison en bois et qui était très, très modeste. Et il s'était fait construire une petite piscine dans laquelle parfois il recevait ses amis en leur proposant l'apéritif ou le champagne, parce qu'il aimait bien offrir du champagne.
Et il fallait qu'on s'habille.
Voilà, quand il invitait ses amis le soir, ses amis ou même les pilotes de passage le lundi soir, ou alors des marins de passage, et qu'il les invitait à dîner, d'une part, il faisait la cuisine, parce qu'il était devenu un excellent cuisinier. Il avait plein de centres d'intérêt, Brel, mais pendant la traversée de l'Atlantique et du Pacifique, il s'est pris de goût pour la cuisine, et puis arrivé aux Marquises, il s'est perfectionné, et vraiment, c'était la cuisine d'un grand chef. Tous les témoignages qu'on a recueillis vous disent ça. Et alors, il y avait une condition pour venir, c'était de venir habillé. Alors, les gens s'habillaient comme ils le pouvaient, mais Brel et lui avaient un beau smoking tout blanc. Madly était en robe de soirée. Bon, vraiment, il y avait une certaine forme de protocole.
Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons marines, où des Bretons devinent que Cinqa doit dormir tout au fond du brouillard. 6 pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, ce soir comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo, nous parlons en silence d'une jeunesse vieille. Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. 6 pieds sous terre, Jojo, tu espères encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas. Je te dis mort aux cons, bien plus cons que toi, mais qui sont mieux portants. Jojo, tu sais le nom des fleurs, tu vois que mes mains tremblent. Et je te sais qui pleure pour noyer de pudeur mes pauvres lieux communs. 6 pieds sous terre, Jojo, tu frères encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, je te quitte au matin pour de vagues besognes. Parmi quelques ivrognes, des amputés du cœur qui ont trop ouvert les mains. Jojo, je ne rentre plus nulle part, je m'habille de nos rêves. Orphelin jusqu'aux lèvres, mais heureux de savoir que je te viens déjà. 6 pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. 6 pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore.
Fred Hidalgo, vous avez parlé d'aviation tout à l'heure, de ce petit avion, le Twin Otter, qui encore aujourd'hui fait la navette avec la capitale. Souvent, vous faites des comparaisons à Saint-Exupéry. Alors, parlons-en de ce côté aviateur de Jacques Brel, parce que là-bas, Brel, avec son avion Jojo, va jouer un rôle déterminant pour la petite population isolée d'Ivaoua.
Oui, absolument. Je parle de Saint-Exupéry d'abord et surtout parce que Brel était un inconditionnel, il l'adorait. Bon, et puis quand il est arrivé, Terre des Hommes, il s'est rendu compte que c'était le nom d'Ivaoua en marquisien. Ça s'appelle le Fenua Enata, ce qui littéralement signifie Terre des Hommes. Donc c'est un petit signe du destin. Et donc, une fois qu'il a eu décidé de s'installer, de revendre son voilier, la Skoï, entre parenthèses, qui était un voilier beaucoup trop lourd pour lui. Tout
pour
le monde
un
homme lui a
seul,
dit,
oui, c'est ça.
Ouais. Ah oui, c'était un exploit hein, de traverser le Pacifique dans ces conditions à deux, avec une femme qui ne connaissait quasiment rien à la marine, et puis lui qui relevait d'une ablation du poumon. C'est un exploit incroyable. Donc il a décidé de s'installer, de vendre son voilier. Il s'est acheté un avion, un bimoteur, un Beechcraft, qu'il a trouvé à Tahiti. D'abord, il a dû revalider sa licence de pilote parce que pour recommencer à voler, il faut à nouveau prendre des cours avec un instructeur, passer un certain nombre d'heures en l'air. Donc là, on est en 76 et Jacques Brel avait connu un coup de foudre en 1961 au Québec pour l'aviation de tourisme. Il était venu en tournée. Raymond DeVos était dans la tournée. Il y avait un de leurs amis qui était un mime, le mime Cornelis, qui les avait invités, qui avait un avion et qui les avait invités à survoler les grands lacs de chez vous. Mm-hmm. Et Brel, à ce moment-là, c'est la première fois qu'il montait dans ce genre d'avion. Il a eu un coup de cœur, vraiment. Mm-hmm. Et ce jour-là, il a décidé qu'un jour, il volerait. Alors, ça n'a pas été immédiat parce qu'il était quand même 61. C'était l'année de son premier Olympia, sa première consécration à l'Olympia. Donc, il avait toute sa carrière à mener. Mais en 64...
Et Dieu sait s'il la menait à vitesse grand V parce qu'il donnait je ne sais pas combien de concerts par année. Il y a 365 jours dans une année. Puis lui, il devait faire au moins 300 et quelques concerts.
Ah oui, oui, 350, c'était très très longtemps le recordman du nombre de spectacles.
Ouais.
Et ce qui est formidable en plus, c'est qu'à l'époque, les tournées comme il en existe aujourd'hui n'existaient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sort un disque, il y a une tournée, et puis après on arrête et on attend plusieurs années avant de ressortir un album et de repartir chanter. Lui, il répondait simplement aux sollicitations des gens qui voulaient le faire venir. Alors par exemple, en 64, il venait de chanter à Biarritz et le lendemain, il devait chanter à Charleville. C'est-à-dire Biarritz est en bas, à la frontière espagnole, sur l'Atlantique, et puis Charleville, c'est la frontière belge, hein, quasiment. Et puis le lendemain, il pouvait repartir en Suisse. Donc il n'y avait pas de tournée bien organisée pour que les musiciens, les techniciens et l'artiste se fatiguent le moins possible. Il y avait des distances énormes. Et là, c'est Charles Marouani, son impresario, qui a dit « Écoute, on va louer un avion, et ce sera plus facile. » En gros, il y avait presque 1000 km à faire du jour au lendemain. Et ils ont loué un bimoteur avec un pilote, enfin deux exactement, puisque dans le deuxième avion, il y avait Gérard Jouannest et Jean Corti, ses musiciens, et puis le matériel. Là, ça a été un nouvel éblouissement pour Jacques Brel, à tel point que pendant le vol, il a demandé au pilote s'il pourrait lui apprendre à piloter. Et lorsqu'ils sont arrivés à Charleville, tout était déjà quasiment organisé.
Oui. Brel, ça... Il avait son instructeur.
Voilà, il avait son instructeur sous la main, il s'appelait Paul Lepense et c'était effectivement celui qui lui a appris à piloter. Mmh. Et donc là, entre 64 et 76, il s'est acheté 5 avions différents. Et il a passé à un moment donné avec un autre pilote dont il a fait la connaissance à Genève, qui est devenu un de ses grands amis jusqu'à sa mort, Jean Liardon. Il a passé les brevets pour piloter des avions à réaction, y compris un Boeing. Il aurait pu piloter un Boeing s'il l'avait voulu. Quand Brel, on disait tout à l'heure qu'il ne faisait pas semblant et qu'il
allait au bout tout le temps. Ouais.
Allait au bout tout le temps. Quand il avait décidé de faire quelque chose, il allait au bout.
Ouais.
On a
l'impression qu'il est parti en mer aussi, comme ça, de façon à l'improviste, mais il s'était préparé pendant 5 ans. Il avait pris des cours de navigation. Il s'était préparé à tout ça. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a le souci de s'organiser, de partir avec son bagage, quoi.
Oui, mais il sait bien, d'ailleurs, quand il écrit des chansons, il l'a dit à de nombreuses reprises, il a toujours dit que le talent, c'était 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Et dans la vie, pour partir traverser l'Atlantique, le Pacifique, et puis ensuite voler, c'était pareil, il savait qu'il fallait travailler en amont et qu'il fallait faire... qu'il y avait beaucoup de travail avant de pouvoir se laisser lancer comme ça tout seul dans la navigation hauturière ou dans les airs. Il savait qu'il y avait beaucoup de travail et ça ne lui faisait pas peur. Il assumait toujours jusqu'au bout.
Oui. Pour lui rendre hommage, les postes polynésiennes d'ailleurs ont émis un timbre Brel avec son avion cette année.
Ah, ben, vous me l'apprenez.
Eh ben oui, j'ai vu ça sur, j'ai trouvé ça sur Internet. C'est très joli, le thème est très beau et ça fait vraiment penser à Saint-Exupéry. C'est pour ça que j'ai pensé à vous. D'ailleurs, vous dites qu'il allait jusqu'au bout. Quand il a préparé ses chansons qui sont dans ce fameux dernier album, dernier opus, avec toute la passion qu'on lui connaît, il les travaillait tous les matins là-bas. Je veux dire, c'est quelque chose que les gens du CRU ont témoigné aussi. Ils l'entendaient chanter, ils l'entendaient se préparer tous les matins.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, Atuona, c'est un village avec un peu de relief, mais rien n'est loin de rien. Par exemple, la maison de Jacques Brel surplombait le collège Sainte-Anne. C'était un collège de bonnes sœurs avec lesquelles il était devenu très ami d'ailleurs, tout en conservant ses idées anticléricales. Ça n'avait rien à voir. Et donc, le matin, il se mettait de bonne heure soit à son orgue électronique qu'il avait fait venir de Papette, par la goélette, comme on disait. C'était un petit cargo qui apportait le ravitaillement une fois par mois. Et puis la guitare qu'il avait déjà sur son voilier. Donc, il a travaillé avec ces deux instruments, son dernier album. Et évidemment, il chantait à voix haute en plus. Et il avait une voix extrêmement puissante encore, hein, vraiment. Il chantait très très bien
entre les cris des poules et des
voilà et des coqs
et des chiens qui jappaient.
On a eu pas mal de témoignages là-dessus. Et puis, il faut savoir que c'était la première fois qu'il écrivait des chansons sans avoir le regard des autres. Parce que sinon, il a toujours écrit ses chansons pendant qu'il était sur la route. Mm-hmm. Puisqu'il faisait
tournée,
350 spectacles par an. Donc, il n'avait pas le temps de se poser. Et souvent, il chantait les chansons qu'il avait écrites dans la journée ou les jours précédents. Il les chantait le soir même. Donc, il les essayait auprès du public. Et puis, il avait évidemment le regard de ses musiciens avec lesquels, d'ailleurs, souvent, il travaillait les chansons en cours après le spectacle. Et là, à Ivaoa, évidemment, rien de tout ça. Il était tout seul. Mm-hmm. Et donc, il chantait et il s'enregistrait. Parfois, il y avait des gens qui passaient. Et puis...
Mais... Oui, j'allais dire qu'il y a un personnage quand même qui a été témoin de ça et vous en parlez. C'est Paul Robert Thomas qui était un médecin que Brel avait déjà rencontré, on pourrait dire, dans une autre vie quand il était plus jeune, parce qu'il avait... Paul Robert Thomas participait à un concours où les circonstances vont faire, donc qui se retrouve aux Marquises. Mais pendant ce fameux concours d'amateurs à l'époque, Brel avait renvoyé Paul Robert Thomas à la médecine parce qu'il était étudiant en médecine et ça donnait à la chanson par passion. Et Brel lui a dit, t'es mieux de continuer tes études de médecine. Et ils se sont retrouvés. C'est quand même incroyable.
C'est incroyable, oui, parce qu'en plus, le dénommé Paul Robert Thomas, c'était en 1964, dans une émission de télévision, a remporté le concours. C'est lui qui a été le lauréat. Brel chantait en deuxième partie, en première partie, donc il y avait 9 candidats, je crois, qui tous devaient interpréter une chanson de Jacques Brel, qui ne figurait pas d'ailleurs, évidemment, dans son récital de la seconde partie. Et cet étudiant en médecine qui hésitait encore, qui écrivait des chansons, qui chantait un petit peu comme ça et qui hésitait entre la médecine et la chanson, c'est lui qui a remporté le concours, accompagné par les musiciens de Jacques Brel en plus. Donc c'était un grand souvenir pour lui. Et ils se sont retrouvés totalement par hasard, donc 12 ans plus tard, en 76, à Tahiti, où il avait ouvert un cabinet de médecine. C'est devenu un grand ami pour Jacques Brel. En même temps, Jacques Brel a eu de nombreuses occasions de venir à Tahiti. Il venait en ville, comme il disait, depuis Ivaoa.
Il allait faire des courses,
kilomètres.
Quoi.
Il allait faire des courses, voilà. Il allait se ravitailler et ravitailler les gens. Tout à l'heure, on parlait de Saint-Exupéry. C'était aussi parce qu'il avait décidé, par exemple, d'aller récupérer le courrier à Tahiti pour le distribuer aux gens de l'archipel. Parce qu'il s'est rendu compte qu'autrement, il ne recevait le courrier qu'une fois par mois par la fameuse goélette qui s'appelle la Ranoui. Et donc, le lundi, il avait sa tournée de courrier. Et quand il pleuvait énormément, qu'il y avait peut-être même des tempêtes en formation et que ça pouvait être très dangereux, eh bien, Madly, sa compagne, pensait qu'elle pourrait faire une grasse matinée. Et rien du tout. Brel s'était engagé à livrer le courrier ce jour-là, tous les lundis. Et donc là, c'était vraiment Saint-Exupéry. C'était
il en faisait un point d'honneur, oui, c'est ça. Et il faisait ça, tout ça gracieusement. Transporter aussi les femmes enceintes à l'hôpital.
Voilà, quand ça risquait d'être délicat. Et pareil pour les malades. Mm-hmm. Et les sœurs qui étaient là-bas disaient, pour nous, c'est vraiment une sécurité de pouvoir compter sur Jacques Brel et son avion. Parce que s'il y a un accident, s'il y a quelque chose, une évacuation sanitaire d'urgence. À l'époque, il n'y avait pas d'hôpital donc à Hawaï, mais il n'y avait pas de médecin non plus. Il fallait aller, encore une fois, jusqu'à Tahiti. Et Brel n'arrêtait pas de transporter des malades. Même, on a recueilli un témoignage de la mère supérieure du collège qui dit qu'il y a eu urgence avec un enfant et il a décollé en pleine nuit. Il a fait monter des jeeps jusqu'au terrain d'atterrissage pour éclairer la piste.
Et
qu'il puisse décoller avec un minimum quand même de lumière. Donc c'est vrai qu'on n'était pas loin de Saint-Exupéry.
Ouais. Ben, on comprend avec tout ce que vous dites pourquoi il a tant marqué là-bas aussi. Là, ce ne sont que des petits éléments, mais il y en a d'autres dans votre livre qui sont très parlants.
Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi, je m'en fiche, j'ai mamie auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi, je m'en fiche, car mamie, c'est toi. Et au soleil là-haut qui nous tourne le dos dans son halo de nuages. Et au soleil là-haut qui nous tourne le dos, moi, je crie bon voyage. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi, je m'en fiche, j'ai mamie auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi, je m'en fiche, car mamie, c'est toi. Aux flaques d'eau qui brillent sous les jambes des filles, aux néons étincelants qui lancent dans la vie leurs postillons de pluie, je crie en rigolant. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi, je m'en fiche, j'ai mamie auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi, je m'en fiche, car mamie, c'est toi. Et aux gens qui s'en viennent et aux gens qui s'en vont, jour et nuit tourner en rond. Et aux gens qui s'en viennent et aux gens qui s'en vont, moi, je crie à plein poumon. Il y a plein d'espoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Et j'en suis riche, j'ai mamie auprès de moi. Il y a plein d'espoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Et j'en suis riche, car mamie, c'est toi, c'est toi.
Fred Hidalgo, le temps file. Il y a un élément que j'aimerais aborder avec vous. Les jeunes dans la trentaine aujourd'hui ne mesurent pas combien il était une immense star, très médiatisé malgré son absence de la scène. Ça avait rendu comme le phénomène encore plus immense. D'ailleurs, la sortie de son dernier disque a été un énorme truc. Vous allez jusqu'à dire, par la voix de Charlie Marouani et de Eddie Plubinski, qui est un journaliste et chanteur belge, qui a écrit lui aussi deux livres sur Brel, que les paparazzis qui n'ont pas cessé de le poursuivre pendant qu'il était à l'hôpital, sont même essayé d'entrer dans sa chambre déguisée en médecin et en infirmier, l'ont précipité vers la fin. Racontez-nous ça.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que du jour où il est rentré à Paris pour enregistrer son nouvel album, les paparazzi ne l'ont plus lâché d'une semelle. Déjà, lorsqu'il est parti en bateau avec sa maladie, des rumeurs ont couru comme quoi il était mort. Les photographes l'ont poursuivi jusqu'aux Antilles. Il y a eu effectivement un papier dans la presse belge annonçant sa mort. Et Charlie Marouani l'a démenti aussitôt, évidemment.
Oui, Brel avait le journal dans les mains. Ils ont fait une photo, les deux, ensemble, comme ça.
Voilà, exactement. Ça, c'est Charlie Marouani qui me l'a raconté. Il m'a dit qu'il ne l'avait jamais raconté à personne. Et il a toujours la photo.
Oui.
Parce que Brel, en fait, lui a demandé de prendre la photo pour l'envoyer ensuite. C'est à François, là. Et en disant, voilà, comment vont-ils réagir avec le journal annonçant ma mort et puis moi qui tiens le journal. Et finalement, comme il avait cette hantise des paparazzi, il s'est dit non, n'envoie pas la photo, c'est pas la peine d'en rajouter. Et donc, lorsqu'il est rentré, les paparazzi l'ont pourchassé. Lui, il voulait être tranquille. Il avait annoncé quasiment à personne qu'il rentrait pour enregistrer un album. Même pas ses grands amis comme Barbara et Brassens, qu'il a prévenu en arrivant, bien entendu. Mais il y avait très, très peu de gens qui savaient qu'il rentrait. Ils l'ont pisté. Enfin, ça leur a rendu la vie insupportable. À François Robert aussi, enfin tout le monde.
Ce qui l'a forcé à se réfugier. réfugiée chez Gréco, d'ailleurs.
Oui, mais Gréco lui a proposé de venir chez elle, qui était aussi la maison de Gérard Joannès, puisqu'il s'était marié entre-temps. Lorsque Brel a arrêté la chanson, Gérard Joannès a accompagné Juliette Gréco. Et puis l'histoire professionnelle est devenue une histoire d'amour. Ils se sont mariés. Et Gréco a proposé à Brel de s'installer chez elle, effectivement, rue de Verneuil, pas loin de chez Gainsbourg. Et donc, là, après l'enregistrement de l'album, il est rentré à Ivaoa. Et quand il a dû revenir un an après, quasiment, parce qu'il y avait une récidive de la maladie, il est rentré à l'hôpital dans le service du professeur Lucien Israël, un cancérologue. Et le traitement, contrairement à ce que l'on imaginait, le traitement a été vraiment très, très efficace. Et la tumeur qu'il avait au seul poumon qui lui restait a régressé au point de quasiment disparaître. Et donc, le professeur a dit que pour lui, si on ne pouvait pas vraiment parler de guérison, en tout cas, une rémission totale avec un traitement ensuite léger, une convalescence. Et normalement, Brel aurait vécu des années encore. Là-dessus, après ce traitement-là, je crois que ça avait duré 6 semaines environ, il a voulu aller se reposer en Suisse. Et donc, il a demandé à Charlie Marouani d'appeler son ami Jean Liardon, le pilote, donc, qu'il avait initié aux avions à réaction, etc., de venir le chercher à l'aéroport du Bourget pour l'emmener là-bas, se reposer à Genève. Et ils ont monté quelque chose pour égarer les éventuels paparazzis, parce qu'à ce moment-là, Brel vivait chez Charlie Marouani et les paparazzis campaient quasiment dans la rue, hein, en face, nuit et jour.
Il y en avait couché sous les voitures, il paraît. C'est assez
absolument.
Fou de penser ça. Ouais.
À tel point même que Charlie Marouani me raconte qu'un jour, lui, il était au bureau et sa femme l'appelle en disant « Voilà, il y a des fourgons de police qui sont en train d'embarquer tous les photographes en face de la maison. » Et en fait, c'est à côté, me dit Charlie Marouani, il y avait une agence bancaire et le directeur de l'agence a cru que c'était un hold-up qui se préparait. Il a appelé le commissariat du quartier et tous les paparazzi ont été embarqués dans le panier à salade.
Mais c'est le scénario de Lady Di que vous nous racontez, donc qui se passe en 78 et non pas en 97, presque.
C'est vrai, oui.
C'est fou, hein.
Oui, parce que donc finalement, leur stratagème, parce que Brel avait commandé une ambulance qui devait partir pour Orly, pensant que les paparazzi suivraient l'ambulance, en croyant qu'il était dedans, et pendant que lui prenait un taxi pour se rendre au Bourget. Et puis il y a eu une fuite, il y a eu une maladresse, et finalement, les paparazzi ont suivi le taxi. Alors que Brel était tout seul, et Charlie Marouani et Madly avaient prévu de le rejoindre un petit peu plus tard. Brel est parti à 5h du matin pour le Bourget parce que son ami Jean Liardon avait prévu d'atterrir à 6h, il ne pouvait pas atterrir plus tôt. Et arrivé à l'aéroport du Bourget, les paparazzi étaient là, aux trousses de Jacques Brel. Il a pris peur, enfin il essayait de leur échapper toujours et il s'est réfugié dans le premier endroit venu. C'était des toilettes et qui étaient climatisées. Lui, il était habillé. Là, on est en octobre, fin septembre, début octobre. Il faisait encore beau et il avait conservé sa tenue d'Ivaoa, c'est-à-dire un pantalon de toile légère, une chemisette blanc toujours en blanc. Il a attrapé froid. Et il est parti malgré tout, donc il a décollé à 6 heures pour Genève. Mais dans la nuit suivante, il a été pris d'une quinte de toux, d'une série de quintes de toux effroyables. Il ne pouvait plus respirer. Au petit matin, Jean Liardon le rapatriait dans le même avion avec Madly et Charlie Marouani. Donc il rentrait à nouveau à l'hôpital et puis il est mort dans la nuit qui a suivi, à 4h10 du matin. Et le professeur Israël et Charlie Marouani me l'a confirmé à nouveau. Il est mort d'une embolie pulmonaire et absolument pas du cancer. Et l'embolie pulmonaire qu'il n'aurait pas attrapée s'il n'avait pas été l'objet de cette chasse des paparazzi. Et Charlie Marouani, aujourd'hui, leur en veut énormément encore.
J'imagine,
parce qu'il était persuadé qu'il aurait vécu des années encore et qu'il y aurait eu des albums à venir encore derrière.
Oui, parce qu'il avait des réserves.
Oui, il continuait d'écrire.
Maintenant que vous avez fait le pèlerinage, en quelque sorte, dans les traces de cet aventurier, est-ce que vous écoutez ses chansons autrement? Et dites-moi laquelle, pour vous, demeure la plus forte de cette portion de sa vie.
Ah mais écoutez, on a eu une émotion, ma femme et moi, en arrivant là-bas. C'est quand on est entré dans le hangar, ça s'appelle l'espace Jacques Brel, mais c'est un vulgaire hangar qui abrite le Jojo, puisque le Jojo a été retrouvé pourrissant sur le tarmac à Tahiti, et il a été restauré, et on peut le voir maintenant dans ce hangar. C'était une histoire magnifique, d'ailleurs, tout comme le voilier, qui a été restauré aussi. Et donc, en entrant dans ce hangar, où on était tout seul, on était les premiers de la journée, on a peut-être été les seuls de la journée. Tout le temps qu'on a passé là-bas pour ce premier séjour, on a vu quasiment personne qui n'était pas du village. Et lorsque les portes se sont ouvertes, Les Marquises, le dernier album, s'est mis à tourner en boucle, mais ça a été la chanson Les Marquises, tout d'un coup, qui nous a assaillis, quoi. Alors qu'on avait l'avion, au mur, il y avait par exemple accroché sa licence de pilote, valable jusqu'au 30 septembre 1978, et il est mort le 9 octobre. Et d'entendre Les Marquises, là, à l'endroit où il a écrit cette chanson, ça a été une émotion incroyable. Et donc, les autres chansons aussi, puisqu'on on a eu des témoignages de gens par rapport à certaines chansons quand ils les écrivaient. Mais Les Marquises, je crois que c'est vraiment cette chanson-là, parce qu'en plus, les Marquisiens se la sont totalement appropriée. Les Marquisiens qui ne connaissaient pas la chanson française, à part Tino Rossi, qui était le personnage le plus célèbre en Polynésie après le général de Gaulle, mais ils ne connaissaient pas les chanteurs français, donc ils ne connaissaient pas Jacques Brel, alors que Les Marquises, c'est vraiment devenu leur hymne national, en quelque sorte.
C'est fantastique, hein?
Ah oui, absolument. Et puis, alors pour la petite histoire, ça c'est la cerise, non pas sur le gâteau, mais sur la madeleine, c'est qu'on a trouvé sur place un enregistrement réalisé par Jacques Brel de deux chansons de l'album, parce qu'il s'enregistrait, je vous avais dit tout à l'heure. On a trouvé La ville s'endormait, on a trouvé Jojo encore à l'état d'esquisse, donc chanté par Jacques Brel, enregistré par Jacques Brel dans son salon. Et c'est incroyable, d'abord parce que ce sont des esquisses, donc très très loin de la version finale des chefs-d'œuvre que l'on connaît, mais avec une voix d'une qualité, d'une puissance absolument incroyable, comme s'il était sur scène. Et ça, c'est une précision que j'apporte simplement pour dire que les gens qui ont prétendu, depuis que Brel est mort, qu'il a fallu revoir techniquement l'enregistrement de son dernier album parce qu'il avait un souffle dans sa voix,
c'est absolument faux,
moins, etc. C'est absolument faux. Il avait une voix plus claire que jamais. Le jour où il a été opéré, lui qui fumait 4 à 5 paquets de cigarettes par jour, il a arrêté de fumer du jour au lendemain. Donc il avait un poumon en moins, mais en même temps, il avait peut-être retrouvé une clarté dans la voix grâce à ça, quoi, grâce au fait qu'il avait arrêté de fumer.
Alors, grâce à vous, je l'ai réécouté d'un bout à l'autre hier soir et j'ai voyagé autrement. Vraiment, c'était très touchant de le réentendre, de réentendre l'album au complet avec tout ce que vous racontez dans votre livre dans la tête.
Bon, c'est gentil, mais c'est vrai que tous les témoignages recueillis sur place quand il écrit ces chansons-là, bon, on apprenait plein de choses et en même temps, c'était très, très émouvant, quoi, de se dire que ces gens-là avaient côtoyé Jacques Brel et qu'ils l'avaient entendu pendant qu'il écrivait ses chansons.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé, d'avoir écrit ce livre, d'être allé jusqu'au bout de votre rêve à vous pour nous faire partager le grand rêve de Jacques Brel. Fred Hidalgo, c'est un grand plaisir encore. Et j'invite les gens à lire donc cet ouvrage et à aller faire un tour aussi sur votre blog qui est toujours très nourrissant.
Merci beaucoup et c'est un grand plaisir toujours de parler avec vous.
Merci Fred.
Merci, au revoir.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de bris, le temps s'immobilise aux marquises. du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Fred Hidalgo nous parlait de son ouvrage Jacques Brel, L'aventure commence à l'aurore, paru chez L'Archipel et qui est disponible au Canada depuis cette semaine. Merci au collègue technicien Jean-Louis Hivert de Radio Bleu-Roussillon en France qui a accueilli Fred Hidalgo dans son studio. À Montréal, Alain Collin et Pierre Dulon. Merci à Robert Hamel, Marie Caillé qui a mis sur notre page web www.radiocanada.ca l'ascenseur pour les étoiles toutes les références pertinentes. Je vous rappelle que Brel est mort à 49 ans le 9 octobre 1978, il y a 35 ans cette année. Chez Universal, on a publié un ultime coffret intitulé « Suivre l'étoile » en 21 CD et des musiques de films aussi de François Robert dans la collection « Écouter le cinéma ». Entrevue et réalisation, Elisabeth Gagnon qui vous parle. Je vous souhaite une très bonne nuit à notre antenne. Au revoir, à demain.